Vous êtes sur Radio Droite Cité 95.5 FM, il est 20h, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, dans une heure qui n'est pas tout à fait habituelle, puisque d'habitude je suis en début d'après-midi. Vous avez dû entendre la publicité qui est diffusée maintenant depuis 15 jours, ce soir c'est une grande émission spéciale sur l'astronomie, avec donc des invités, tout d'abord monsieur Roger Maurice Bonnet, directeur du programme scientifique à l'Agence spatiale européenne, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur René Cuérier de l'Association française d'astronomie, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Serge Letessier qui est fondateur du Club Copernic, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Jean-Pierre Perrier qui est le trésorier du club, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis, je reçois aussi un membre du Club Copernic, Stéphane.
Bonsoir. Bonsoir.
Voilà, donc jusqu'à 23h, on va parler bien sûr de l'astronomie. On aura plusieurs sujets, bien sûr. On aura tout d'abord le premier sujet, l'univers, une histoire. On parlera de l'origine, la composition de l'univers, l'avenir de l'univers, etc. On aura aussi en deuxième sujet, l'astronomie, à quoi ça sert. On parlera de pourquoi fait-on de l'astronomie. Et en troisième sujet, nous aurons qui peut faire de l'astronomie. Est-ce que on parlera donc est-ce que l'astronomie c'est amusant. Et en quatrième sujet, on parlera aussi des projets futurs. Et pour terminer, parler questions diverses. Si les auditeurs justement vous avez des questions à poser à nos invités, vous pouvez d'ores et déjà composer le 01 34 79 97 79 et poser des questions. Mais attention, je précise bien que ce sera des questions sur les sujets qu'on va parler exactement. Donc là, on va commencer tout de suite par le premier sujet, c'est l'univers a une histoire, donc origine et composition de l'univers. Alors, je vais me tourner vers monsieur Cuérier et monsieur Bonnet. On va tout d'abord parler de l'origine et la composition de l'univers. Donc, dans cela, on parle beaucoup du Big Bang. Alors, qu'est-ce que c'est au juste le Big Bang ?
Le Big Bang, c'est, je crois, une théorie, je suis peut-être pas forcément le plus habilité ici à en parler, mais une théorie qui date maintenant, qui trouve ses origines il y a à peu près 80 ans, et qui a ceci de particulier que l'astronomie et l'astrophysique donnent des nouveaux outils très récents à une question qui se pose depuis des milliers et des milliers d'années. C'est-à-dire que, on parlera tout à l'heure de savoir à quoi ça sert de faire de l'astronomie. Je pense que, à partir du moment où toutes les générations d'êtres humains dans toutes les cultures, sur tous les continents, se sont posées la question de savoir, effectivement, sont posées ce genre de questions, d'où vient l'univers, pourquoi est-ce qu'on est là, et que, effectivement, depuis quelques décennies à peine, donc on est vraiment au cœur d'une époque qui est en train de changer, de bouleverser cette perspective, et ben depuis 80 ans, on a cette théorie du Big Bang qui commence à donner des nouvelles réponses. Et des réponses à des questions que se pose tout le monde, je pense que c'est déjà une première utilité de l'astronomie.
D'accord. Monsieur Bonnet, la question que je voulais vous poser, c'est que j'ai entendu dire, bon, on a beaucoup parlé justement de comment dirais-je, du Big Bang qui serait à l'origine de la création de l'univers, mais il y a des revues qui démentent des fois, qui disent non, le Big Bang n'aurait jamais eu lieu, l'univers existe depuis toujours. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ?
Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent quand même tout expliqué par une explosion qui est à l'origine du monde ou des mondes, c'est un peu simple, c'est presque de la religion. Et donc, il faut ramener les choses à ce que l'astronomie est, c'est-à-dire une science d'observation. Et on observe le ciel par beaucoup de moyens, aujourd'hui en particulier dans des rayonnements que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que des instruments extrêmement sensibles dans l'infrarouge, c'est-à-dire les très grandes longueurs d'onde, au-delà du rouge ou dans le rayon X, au-delà des très courtes longueurs d'onde, nous permettent de voir. Et on s'aperçoit en effet que lorsque l'on regarde le ciel, des longueurs d'onde qui sont voisines du millimètre, vous voyez, donc ça c'est grand comme longueur d'onde, et bien partout, dans toutes les directions où que l'on observe, il y a une lumière très faible, et on mesure l'intensité de ces lumières et leur couleur par leur température. Cette température, la température de cette lumière, elle est de 2,7 degrés absolus, c'est-à-dire moins 270 degrés. Et elle est uniforme partout. Et en plus, elle ressemble parfaitement à ce qu'on appelle un corps noir, c'est-à-dire une lumière qui reflète l'émission d'un corps très chaud, qui là ne serait pas très chaud puisqu'il fait que 2,7 degrés. Et on a pensé immédiatement que c'était ce qui restait, le résidu lumineux de ce fameux Big Bang, qu'on n'a jamais vu, parce que cette lumière, elle se serait séparée des atomes qui l'ont émise à peu près 300 000 ans après cet hypothétique Big Bang. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu voir le Big Bang. Tout ce qu'on peut faire, c'est émettre un modèle, le modèle du Big Bang, et puis on s'aperçoit que beaucoup d'observations, celles dont je viens de parler, mais aussi la composition de l'univers, c'est-à-dire en quoi est fait l'univers, le rapport entre l'isotope de l'hydrogène qu'on appelle le deutérium et le lithium et l'hélium, tout ça, c'est tout à fait compatible avec cette théorie du Big Bang. Alors aujourd'hui, c'est quand même le modèle standard de la cosmologie le plus adopté, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est un petit peu trop simple et que peut-être on découvrira d'autres phénomènes qui mettront à mal cette théorie, et il y en a un certain nombre.
D'accord. Alors, pour parler plus en détail donc de l'univers, pour cette émission, j'ai préparé aussi des reportages, et des reportages qui sont tirés d'une revue qui s'appelle Astronomia, qui avait fait une cassette vidéo sur une cassette audio, pardon, avec Michel Boujna, qui racontait l'histoire de l'univers. Et pour le premier reportage, on va écouter justement sa théorie sur l'origine et la composition de l'univers. On se retrouve juste après.
Le Soleil, c'est une étoile. D'ailleurs, c'est même la seule étoile que l'on voit en plein jour. Et les planètes ? Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Il y en a 9 au total. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, ce sont des débris d'étoiles. Parce que les étoiles, elles naissent et elles meurent. Elles sont le ventre du ciel, le creuset de la matière qui nous compose. À la fin de leur vie, les plus grosses explosent. Elles deviennent des supernovas et disséminent alors dans l'espace les noyaux d'oxygène, de carbone et de fer qu'elles ont fabriqués en leur sein. Notre Terre elle-même provient de ces débris d'étoiles. Le carbone de nos eaux, comme le fer de nos automobiles, sont constitués de ces débris d'explosion. Nous sommes donc tous un peu enfants des étoiles et poussière de lune. Les planètes, elles, qui sont connues depuis l'Antiquité, sont donc des astres froids qui tournent autour du Soleil et se contentent de réfléchir une partie de la lumière qui leur envoie. Leur position varie d'une saison à l'autre. Elles voyagent tant et si bien dans le ciel que les Grecs les ont baptisées planètes, ce qui signifie vagabond. C'est joli, vagabond. Normalement, on les distingue assez facilement des étoiles car elles ne scintillent pas, mais se contentent d'émettre une lumière intense et fixe, parfois colorée. Bon, laissons de côté les planètes pour revenir à nos petites étoiles. Vous savez que les hommes d'autrefois voyaient dans le ciel une voûte lointaine percée de minuscules trous à travers lesquels couvait le grand feu de la création. Il y a seulement 1000 ans, les frères d'Astérix bandaient leur arc et tiraient leurs flèches contre les nuages. Alors, toutes ces étoiles, à force de les voir au-dessus de leur tête, les hommes, ils y ont projeté leurs frayeurs et leurs espoirs. Ils y ont scruté les signes de leur destinée. Et puis, ils les ont regroupés en constellations, en leur donnant des noms d'animaux, d'outils, de dieux ou de personnages mythologiques. Grand Ours, Cassiopée, Pégase. Ces constellations ont donc été nommées dans la mémoire collective bien avant d'être inscrites sur les cartes du ciel. Mais en fait, c'est un pur produit de notre imagination. Et on les retrouve dans toutes les civilisations. Vous savez que ces constellations que nous observons aujourd'hui étincelaient pareillement à l'ère préhistorique comme à l'Antiquité ? Quand on m'a dit ça, j'ai dit « c'est normal puisqu'elles ne bougent pas ». En fait, pas du tout. Les étoiles ne sont pas immobiles, mais elles sont si lointaines que leur déplacement est indiscernable à l'œil nu. Il faut plusieurs siècles pour s'apercevoir que les constellations se déforment. Bon, une petite devinette. Combien croyez-vous voir d'étoiles à l'œil nu ? 1, 2, 3 milliards ? Non ! Il y a juste quelques 3000 étoiles par une belle et noire soirée d'été. 3000. Ce chiffre est dérisoire comparé aux 200 milliards d'étoiles qui parsèment notre galaxie, la Voie lactée. 200 milliards d'étoiles! À l'aide d'une paire de jumelles, vous pourrez en voir déjà des dizaines de milliers. Mais si vous utilisez une simple lunette astronomique, alors la voûte céleste vous apparaîtra dans toute son immensité. Vous savez qu'au moment où vous regardez le ciel, il y a dans le monde des fous, des détraqués, des démontés du cabasson, que l'on a appelés astronomes, et qui passent leur vie à contempler sans cesse ce balai féerique pour élaborer la carte du ciel. Ils classent les étoiles comme on classe nos souvenirs. Ils les nomment et analysent la composition de leur lumière. Car c'est la lumière, et la lumière seule qui nous relie au cosmos et à l'éternité. Alors là, je crois que je vais vous parler de la lumière et de sa vitesse. Car c'est obligatoire si on veut comprendre le ciel. Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Alors, je vais essayer d'être simple. Vous savez que la lumière se déplace, exactement comme le son. Sauf qu'elle se déplace beaucoup, beaucoup plus vite. À la vitesse de 300 000 km par seconde. J'ai dit par seconde. C'est très, très, très rapide. La Lune est à 300 000 km de la Terre. Cela veut dire qu'il faut une seconde à la lumière pour aller sur la Lune. 1. Je suis sur la Lune. 2. Je suis revenu. Il lui faudrait donc également un peu plus d'une seconde pour faire 7 fois le tour de la Terre. Vous savez à présent que l'univers est en constante évolution. On n'en connaît ni vraiment le début, ni vraiment la fin. Les astronomes ont démontré qu'il fut certainement beaucoup plus compact, ramassé sur lui-même, avec des galaxies beaucoup plus rapprochées qu'elles ne le sont aujourd'hui. L'univers a une histoire, et nous l'avons remontée peu à peu, comme on remonte un film à l'envers. Il est né, il y a 15 milliards d'années, à la suite d'une gigantesque explosion. Le dieu des astrophysiciens ne s'appelle ni Jésus, ni Allah, ni Bouddha, ni Yahvé, mais Big Bang, car c'est lui qui a créé le temps et l'espace, puis les galaxies et les étoiles. Plus tard, enfin, il y a seulement quelques millions d'années, l'homme serait né lui aussi, enfant du Big Bang.
Voilà, donc à l'instant, c'était le reportage sur de Michel Bougeat, donc sur l'univers. On va revenir tout de suite de l'autre côté avec nos invités. Alors, est-ce que vous aviez notamment des choses à rajouter sur l'origine et la composition de l'univers, ceux qui sont dans les studios ?
Je pense qu'il y a, M. Bonnet a parlé tout à l'heure des observations qu'on faisait aujourd'hui, et qui avaient conduit à la théorie du Big Bang. Il y en a une autre, je pense, dont on peut parler aussi, qui était un petit peu mentionnée dans le reportage, mais qui a beaucoup d'importance pour nous autres êtres humains. Cette observation, c'est le fait qu'effectivement l'univers est en expansion. L'univers est en expansion, ça veut dire que tous les points s'éloignent les uns des autres, toutes les galaxies s'éloignent les uns des autres. Mais pour nous, c'est extrêmement important. Le fait même qu'on existe est lié à ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut observer tous les soirs, enfin tous les soirs à condition qu'il fasse beau. Et la raison pour laquelle on peut l'observer, c'est tout simplement le fait que la nuit est noire. Dans l'univers, il y a des étoiles, il y a des galaxies qui rayonnent de la chaleur et de la lumière à l'extérieur, dans le vide. Et du fait même qu'elles rayonnent de la chaleur, eh bien, il y a de la chaleur qui arrive sur Terre, il y a les saisons qui ont lieu, il y a des cycles dans l'atmosphère, il y a l'eau qui s'évapore des mers, les rivières qui coulent, la vie qui peut apparaître sur Terre. Et il faut qu'il y ait cette différence de température entre des étoiles qui sont très chaudes et un univers qui est très froid. On parlait de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, moins de 170 degrés. Et si l'univers n'était pas en expansion, eh bien, au bout d'un moment, il se serait rempli avec la lumière et la chaleur des étoiles. Et le fait qu'ils soient en expansion, c'est-à-dire le fait que vous pouvez vérifier tous les jours le fait que la nuit soit noire, qu'elle soit pas brillante comme le soleil, mais qu'elle soit noire, eh bien, nous sommes aussi non seulement les enfants des étoiles, mais aussi les enfants du fait que la nuit est noire.
Très bien. Alors, on va passer toujours dans le sujet de l'histoire de l'univers. Bon, là, on a parlé un peu de son origine et de sa composition, mais une chose qui serait intéressante de savoir aussi, c'est qu'est-ce que va devenir l'univers maintenant ?
Ça, c'est une question à laquelle on aimerait bien pouvoir répondre. C'est Roger Bonnet qui parle. On ne le sait pas vraiment parce que, en fait, on observe bien l'univers, mais on observe malheureusement que 10% de ce qu'il contient. À peu près 90% de la masse que contient l'univers n'est pas observée. Et c'est ce qu'on appelle, juste titre, la masse cachée de l'univers, ou la masse obscure, ou la matière noire de l'univers. Comment est-ce qu'on sait qu'il manque 90% de la masse ? Parce qu'on s'aperçoit qu'elle a des effets, cette masse. Les galaxies tournent plus vite que ce qu'elles devraient. Il y a donc un moteur quelque part, et cette moteur, c'est la gravitation d'une masse qui est située quelque part dans l'univers, ou diffuse peut-être, mais on ne le sait pas. Alors, si cette masse manquante est vraiment manquante, eh bien, ça veut dire que l'univers va continuer à s'étendre, comme le disait M. Cuillerier tout à l'heure, et ça, il n'y a pas de fin à l'univers. Si au contraire, cette masse existe vraiment, et si elle est là, au bout d'un certain temps, difficile de vous dire au bout de combien de temps, mais enfin, vous n'allez pas vous inquiéter, vous ne serez plus là pour le voir de toute façon, l'univers va se recontracter sur lui-même. Et au lieu d'un Big Bang, on aura ce que les Anglais appellent un Big Crunch, c'est-à-dire vraiment un effondrement de l'univers sur lui-même. C'est intéressant parce que on voit que nous-mêmes, les êtres vivants, nous avons la chance, et ce n'est pas un hasard si nous vivons maintenant, parce que si nous avions vécu plus tôt dans l'histoire de l'univers, trop près du Big Bang, il faisait trop chaud, il n'y avait pas assez d'étoiles qui étaient formées pour former, comme disait Michel Boujna, les atomes qui constituent notre corps. Et puis, et bien plus tard, il n'y a plus assez d'étoiles qui se forment parce qu'il n'y a plus assez de matière. Elles sont toutes emprisonnées dans... la matière est emprisonnée dans toutes les étoiles ou les planètes mortes. Et à ce moment-là, il n'y a plus non plus de formation de vie. Donc nous sommes à peu près, c'est pas un hasard, disons, au milieu de notre univers, une période où la vie peut se former.
Très bien. Alors, toujours dans les questions, donc, vous disiez... Justement que parmi ce qu'on pense de ce que va devenir l'univers, sur la deuxième possibilité, c'est qu'il s'effondre, j'ai entendu dire que en fait l'univers, si cette théorie était vraie, serait en fait un éternel recommencement.
C'est pas vraiment comme ça que je le dirais. Je pense que y a beaucoup de théories sur l'univers, mais un univers qui comprendrait beaucoup d'univers. Nous vivons dans un univers où nous avons des lois de la physique, où nous avons des valeurs, des constantes de la gravitation, qui sont bien sympathiques pour nous parce qu'elles sont propices, au développement de la vie. Mais il y a des théories, en particulier celles qui sont émises par un ancien scientifique soviétique, russe maintenant, et qui vit aux États-Unis, à Stanford, qui vous crée des univers à tout moment, n'importe où, n'importe quand. Et des univers dans lesquels les lois de la physique ne sont pas du tout les mêmes que celles que nous avons ici, donc où il y a peut-être des formes de vie dans ces autres univers. Je parle bien d'autres univers et non pas d'autres planètes, ni d'autres étoiles, ni d'autres galaxies, d'autres univers avec lesquels on peut malheureusement pas communiquer parce que les signaux ne peuvent pas nous parvenir. Et ces univers se forment en permanence, ils disparaissent, ils se reforment, ils redisparaissent. Donc c'est une espèce de création continue des univers. À l'opposé de la théorie du Big Bang, une théorie qui supposait que la matière était constamment créée partout, c'est ce qu'on appelait l'univers statique, où la matière se formait constamment. Et bien là, cette théorie des univers de M. Linde, le scientifique dont je parlais tout à l'heure, elle fait des univers à tout moment, n'importe quand, n'importe où. Et ça veut dire qu'effectivement, c'est un éternel recommencement, mais pas nécessairement de notre univers, mais d'autres univers un peu partout.
Mm-hmm. Très bien. Alors, on a cerné maintenant un peu l'univers, son origine, sa composition, bon, ce qui va peut-être devenir, on ne sait pas. On va parler maintenant du système solaire, parce qu'il faut savoir que nous, on est sur Terre, donc il faut quand même expliquer comment on est venu ici, comment est né le système solaire. Et je ne sais pas qui veut prendre la parole. pour expliquer, Monsieur Cuillerier ?
Oui, rapidement. En fait, effectivement, comme Bougenal a dit tout à l'heure, les étoiles, la première génération d'étoiles, en fait, dans un univers où il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium, en fait. L'hélium, c'est ce qu'il y a dans les ballons métallisés qu'on vend aujourd'hui dans les foires. Il n'y avait que ça dans l'univers. Et effectivement, on ne fabrique pas grand-chose avec ça. Et petit à petit, dans le cœur des étoiles, où il règne des températures absolument phénoménales, des dizaines de millions de degrés, des choses qu'on ne peut pas imaginer, se forment de nouveaux éléments chimiques, le carbone qui compose nos corps, l'oxygène qu'on respire, etc. Et quand ces étoiles meurent, il est restitué dans l'espace. Et au bout de quelques milliers de générations d'étoiles, l'univers se remplit d'une poussière et d'un gaz qui, par endroits, va commencer à se contracter sous l'effet de la gravitation. Et en se contractant, il se met à tourner. Ça, c'est une expérience que vous pouvez faire chez vous. Vous mettez sur une chaise qui tourne sur son pivot, une chaise de bureau, avec deux dictionnaires dans chaque bras. En plus, ça fait de la musculation. Et vous commencez à tourner tout doucement. Et vous rapprochez les bras et les dictionnaires de vous très rapidement. Et vous allez voir que vous allez vous mettre à tourner beaucoup plus vite. Et c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 5 milliards d'années. Quand un morceau de ce gaz et de cette poussière a commencé à se contracter, il s'est mis à tourner à toute vitesse. Au centre, s'est formée une nouvelle étoile. Qui est notre Soleil, qui continue à briller 5 milliards d'années après. Et puis avec des petits morceaux, des petits grains, des petits débris qui restaient, qui n'ont pas servi à faire le Soleil, qui tournaient aussi dans le même sens à toute vitesse, se sont formées des planètes qui étaient composées effectivement de ces nouveaux éléments chimiques. Et sur l'une de ces planètes, qui est la Terre, la troisième à partir du Soleil, nous sommes apparus un bon moment après.
Et donc, justement... Une question, c'est savoir comment la vie est apparue sur la Terre. Et la question que beaucoup de monde se pose, c'est pourquoi sur la Terre et pas d'autres planètes ?
Il y a évidemment beaucoup de raisons à ça. La vie telle que nous la connaissons, nous, sur Terre, elle est faite essentiellement à base de l'eau. Et il faut donc qu'il y ait de l'eau. On vient de faire des observations récemment avec un satellite qui a la particularité de pouvoir détecter la molécule d'eau... grâce à sa sensibilité tout à fait particulière, en regardant dans le rayonnement infrarouge. Et on trouve qu'il y a de l'eau partout dans l'univers, en fait. Partout où l'on regarde, on trouve de l'eau. Malheureusement, on ne trouve pas de l'eau liquide, on trouve de l'eau sous forme de glace ou de l'eau sous forme de vapeur, de gaz, mais on ne trouve pas d'eau liquide. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas formés de vapeur ni de glace, mais plutôt d'eau liquide. 80% de notre corps, c'est de l'eau. Et un petit peu d'autres choses aussi, évidemment. Il faut donc que l'eau existe sous forme liquide pour que la vie puisse se développer sous la forme que nous connaissons sur Terre, je le répète, parce qu'il existe peut-être d'autres formes, bien que ça semble assez inimaginable, mais enfin bon, il ne faut pas borner son imagination. Et la seule planète qui soit à la bonne distance du Soleil pour que l'eau puisse exister sous forme liquide et non pas sous forme de vapeur ou sous forme de glace, c'est la Terre. Mars, vraisemblablement, avait à peu près les mêmes conditions, un petit peu plus difficiles à remplir, parce qu'un peu plus loin du Soleil que nous. C'est pas la seule condition. Il faut aussi qu'il y ait une atmosphère autour de la planète en question pour que cette eau puisse rester à l'état liquide et ne s'évapore pas immédiatement sous forme de vapeur. Donc, dans l'état liquide, la Terre présente toutes les conditions pour que l'eau soit présente et donne naissance à la vie. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop froide. Et donc, la température moyenne de la Terre, je dirais une vingtaine de degrés, c'est absolument propice. Ce qui ne veut pas dire que la vie ne peut pas exister ailleurs et qu'elle ne peut pas exister, en particulier sur d'autres éléments, sur d'autres planètes ou d'autres satellites naturels des planètes de notre système solaire. Même si on pense à des objets comme le satellite de Jupiter Europa, qui est apparemment recouvert d'une gigantesque couche de glace, hein, c'est un énorme glacier planétaire, ou à la grande lune de Saturne qu'on appelle Titan, où il fait moins 180 degrés, il est possible qu'à certains endroits, dans ces corps, dans ces satellites, il existe des poches de chaleur dans lesquelles l'eau peut apparaître à l'état liquide. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que nous n'avons pas le privilège nécessairement d'être les seuls êtres vivants de notre système solaire. Ce que je dirais cependant, c'est que vraisemblablement, sur Mars, il y en a peut-être eu, et on va y aller voir de près dans pas longtemps, mais ils sont vraisemblablement éteints, les êtres vivants qui ont pu exister sur Mars. Sur Titan, dont je parlais tout à l'heure, et Europa, dont je parlais aussi, ils sont peut-être pas encore là. Ils sont peut-être en train de se former, ou s'ils sont là, ils ont plutôt une allure larvaire ou même cellulaire, plus que l'apparence des êtres que je vois autour de moi ce soir.
Très bien. Et justement, vous parliez de la vie ailleurs. Alors, on a eu, je crois que c'est l'année dernière, si je ne me trompe pas, un grand coup de théâtre, parce qu'on a trouvé dans une météorite martienne un fossile d'être vivant. Et il paraît que là, aujourd'hui, ça a été démenti, et que ce ne serait pas en fait un fossile martien, mais un fossile terrien, et que la météorite serait tout simplement une pierre terrestre.
Bon, ce que vous dites est tout à fait exact sous tous ces aspects. Premièrement, en effet, il y a eu il y a 2 ans, une très grande publicité faite autour de la découverte et de l'analyse de cette météorite qui semblerait être attribuable à une éjection de cailloux martiens. Bon, il y a d'autres météorites qu'on peut imaginer provenir de Mars, qui viendraient donc de l'impact d'un astéroïde ou d'une autre météorite sur Mars, qui éjecterait donc ces débris qui viendraient atterrir sur Terre, si je peux dire. Et donc l'analyse de celle-ci a montré en effet des structures qui ressembleraient et qui sembleraient être des marques d'une vie fossile. Mais aussitôt publiée cette découverte fracassante, en effet, une analyse plus détaillée du caillou en question a montré que cette vie pouvait, ou cette apparence de vie pouvait avoir d'autres origines, en particulier la pollution par la vie terrestre de la météorite en question pouvait expliquer qu'on y trouve ces formes de vie apparentes. Aujourd'hui, la question n'est pas tranchée, c'est pourquoi, si on veut vraiment être sûr que la vie a existé sur Mars, bien le mieux c'est d'aller soi-même chercher ses propres cailloux. Et c'est ce que vont faire Américains et Européens en 2005, puisque une mission est programmée aux États-Unis, à laquelle participeront les Européens pour ramasser des cailloux martiens et les ramener sur Terre. Et là, il n'y aura pas de doute sur l'origine du caillou. On prendra toutes les précautions pour pas le polluer, c'est-à-dire pour pas y semer des traces de vie terrestre ou terrienne. Et puis là, on aura une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus sérieuse, et il n'y aura aucun doute. Si on ne trouve pas de vie dans ce caillou ramené, ou dans ces cailloux ramenés de Mars, ça ne voudra pas dire que la vie n'existe pas ou n'a pas existé sur Mars. Ça voudra dire que peut-être, si elle existe, on n'a pas pris des bons cailloux, il faudra alors y retourner. Et si on la découvre, là, ce sera une découverte majeure.
D'accord. Alors, on va... Monsieur Guerrier, vous vouliez dire quelque chose, non ?
Oui, il y a juste quelque chose sur lequel je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez sur Europe et sur Titan. Le fait même que cette météorite, qui je crois a été découverte dans les glaces de l'Antarctique, ait pu être contaminée par des micro-organismes terriens dans des conditions en Antarctique qui fait quand même terriblement froid et des conditions climatiques qui sont très très difficiles. Le fait que des micro-organismes terrestres aient pu contaminer cette météorite dans cet endroit-là prouve quand même que la vie... alors peut-être est-ce parce que par ailleurs il y a des climats plus cléments et qu'elle peut migrer vers ces régions sur Terre, en tout cas vers ces régions qui sont très froides. En tout cas, la vie arrive à survivre dans des circonstances et dans des conditions qui sont apparemment terriblement inhospitalières. Donc effectivement, il ne faut pas borner son imagination.
Exactement. Alors, on va écouter un nouveau reportage, toujours extrait de cette cassette, donc Astronomia, de Michel Boujna, et qui va nous parler, entre autres, du système solaire.
Au XIXe siècle, les astronomes arpentent en effet au télescope la Voie lactée pour la mesurer de toutes parts et découvrir qu'elle est une sorte d'immense disque plat parsemé de quelques 200 milliards d'étoiles. En réalité, ce disque immense renferme notre cité stellaire. Ou si vous préférez, elle abrite notre système solaire. Nous autres terriens, nous sommes logés à l'intérieur. C'est pourquoi elle nous renvoie à la projection de notre propre univers. Et c'est précisément parce que nous voyons ce disque galactique par la tranche que les étoiles semblent tasser les unes contre les autres. Mais ce n'est qu'une pure illusion d'optique, et c'est cela qui donne cette impression d'embouteillage. On avait l'impression de vivre dehors et on vit dedans. Par exemple, une promenade en forêt profonde nous donne l'impression que le rideau d'arbres qui se dresse au loin sera toujours infranchissable en raison de son épaisseur. Or, plus nous avançons, plus cette masse recule. Nous sommes pourtant à l'intérieur de ce que nous avons vu tout à l'heure. Les arbres qui nous entourent et que nous dépassons ne forment pas un rideau inextricable. Toutes les étoiles sont en fait incroyablement éloignées les unes des autres. Depuis la Terre, et vous le voyez à présent, les étoiles de la Voie lactée donnent l'impression d'un fond uniforme et grouillant, comme une rivière de lait, et parfois même comme des ruisseaux de crème fouettée. La lumière mettra 100 000 ans pour traverser ce monde dense et fourmillant dans lequel le soleil est un élément aussi mineur que la Terre. Ce soleil est une sorte de funambule, car il est posé sur l'un des bras spiraux de la galaxie, à 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. C'est une île à jamais inabordable. Même Robinson Crusoe a dû faire demi-tour. On m'a dit, je vous répète ce qu'on m'a dit, que même avec les appareils les plus sophistiqués, on ne pourra jamais apercevoir le centre de notre galaxie tellement il est obscurci par des poussières interstellaires. Croyez-moi, il nous faudrait un bon coup de balai stellaire là-dedans.
Exactement. Voilà, donc petit reportage sur le système solaire de Michel Bougelat. Il y en aura d'autres encore tout à l'heure. Alors une question justement par rapport au reportage que vient de dire Michel Bougelat. Il parlait qu'on était sur un des bras spiraux de la galaxie. Donc ça veut dire qu'en fait, on sait que les planètes tournent autour du Soleil, mais en fait, le Soleil, avec ses 9 planètes, se déplace lui aussi. Monsieur Curie.
Oui, effectivement, le Soleil se déplace. Ça, c'est aussi une grande découverte. Une des choses qui a vraiment fondamentalement changé notre vision de l'univers, qu'a apporté l'astronomie dans les derniers siècles. On s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas d'endroit qu'on pouvait considérer immobile. Effectivement, si vous donnez rendez-vous à un ami à tel endroit demain, en fait, ce n'est pas le même endroit. La Terre aura fait plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de kilomètres à travers l'espace, mais effectivement, l'ensemble Soleil-Terre se sera aussi déplacé à travers la galaxie, puisqu'il a fait un tour complet, je crois, en 22 millions d'années. Mais c'est une vitesse, en fait, ça représente une vitesse phénoménale. Et cette galaxie elle-même, par rapport à d'autres galaxies, est en constant déplacement, à très grande vitesse également, parce que l'ensemble de l'univers est en expansion. Et donc, où que vous soyez, en fait, vous êtes toujours en permanence en train de bouger.
D'accord. Ça veut dire que nous, en fait, depuis 20 heures, qu'on est tranquillement assis ici dans les studios, on le remarque pas, mais on a fait des millions de kilomètres, là.
Oh oui, tout à fait. Vous le sentez pas, mais vous déplacez même très vite. Et on est tous dans le même bateau, de toute façon. Mais on a mesuré récemment, en fait, l'arrivée du gaz de la galaxie dans le système solaire. On mesure directement l'arrivée de la vitesse, en fait, de notre Soleil dans le système solaire, dans la galaxie, pardon, en mesurant le gaz qui sépare les étoiles, qu'on appelle le gaz interstellaire, grâce à un satellite artificiel qui orbite notre Terre à peu près à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et qui regarde cet hydrogène qui vient du milieu interstellaire et qui mesure à la fois son intensité et sa vitesse. Donc on se déplace à plus de centaines de kilomètres par seconde, plusieurs centaines de kilomètres par seconde dans notre galaxie. Et tout ça, ça nous permet aujourd'hui de nous situer, disons, de façon relative par rapport à cette galaxie qui est en effet la... notre village stellaire aujourd'hui.
Donc ça, ce sont des observations très intéressantes qu'on n'a pu faire que grâce aux observations faites à bord de satellites. Ce n'est plus de l'astronomie d'amateur, là, maintenant, c'est de l'astronomie, extrêmement technique, qui nécessite d'aller au-dessus de l'atmosphère de notre Terre pour regarder le rayonnement, des atomes d'hydrogène qui sont dans l'ultraviolet très lointain. Et cet ultraviolet très lointain, on ne peut l'observer que si on est à bord d'une fusée ou d'un satellite artificiel, ou très loin de la Terre. Et c'est ce que nous avons fait avec un satellite qui s'appelle SOHO, et qui mesure cet hydrogène. Je parle de l'hydrogène parce que c'est l'élément le plus abondant de l'univers, c'est le plus simple, et donc c'est celui que le Big Bang a formé, si on revient à lui, en plus grande quantité. Et donc c'est celui qu'on mesure le plus facilement aussi.
D'accord. Monsieur, je voyais tout à l'heure, quand on parlait justement de ça, je voyais monsieur Le Tessier qui réagissait, il voulait dire quelque chose, non?
Non, parce que récemment...
Plus près du micro.
Justement ce matin, lors d'une... une petite démonstration avec une classe de CM1, CM2, les élèves ont abordé justement ce sujet, le déplacement des planètes dans l'univers. Et lorsque je leur ai dit aussi que le Soleil aussi se déplaçait en même temps que les planètes, ça a été pas l'étonnement en fin de compte, pas l'étonnement, les élèves le savent, même les élèves de CM1, CM2 savent déjà ça, Et ça, j'ai trouvé ça formidable, mais c'est souvent, cette question revient dans leur demande. Et c'est pour ça que j'ai été étonné d'entendre ça. Et...
Très bien. Donc, pour continuer, maintenant, on sait comment le système solaire est né, on sait ce qu'il est actuellement, mais que va devenir le système solaire? La grande question que tout le monde se pose.
Le devenir du système solaire, c'est en fait lié directement au devenir du Soleil lui-même. Mmh. Notre étoile, le Soleil, est né, comme le disait tout à l'heure M. Quillerier, de la concentration de grands nuages de poussière et de matière interstellaire, de gaz, de molécules, mais il a une vie et il a une mort. C'est un astre assez jeune, le Soleil. Il a 4,5 milliards d'années. Quand on pense à l'âge de l'univers qui est de 15 milliards d'années, eh bien, on s'aperçoit que c'est un être assez jeune. Mais il a encore à peu près 5 milliards d'années devant lui avant de mourir. Cette mort, ça ne va pas être rigolo parce qu'elle se fera dans des subresauts absolument titanesques, si je peux dire. La vie d'une étoile, elle dépend de la quantité d'hydrogène qu'elle contient essentiellement. Si elle contient beaucoup d'hydrogène, et si cet hydrogène est très concentré, l'étoile n'a pas nécessairement une durée de vie très longue. Cet hydrogène est transformé au cœur des étoiles en hélium. Et c'est cette espèce d'alchimie qui se produit constamment. Chaque seconde, notre Soleil brûle des milliards de tonnes d'hydrogène. Eh bien, cette alchimie, elle détermine l'âge du Soleil. Quand il n'y a plus d'hydrogène à brûler en hélium, eh bien, le Soleil commence à avoir des problèmes. Et il devient de plus en plus froid, il se gonfle, il devient géante rouge, et alors il absorbera dans son gonflement définitif les planètes comme Mercure, comme Vénus, hélas la Terre y passera aussi, sans doute Mars. Peut-être que Jupiter et Saturne seront des havres de vie pour ceux qui resteront à ce moment-là, s'il existe encore des êtres vivants. Mais après cela, bien, les soubresauts définitifs feront que notre Soleil risque d'exploser quand même, et donc nos jours seront définitivement comptés. Voilà une histoire pas très drôle, mais ne vous inquiétez surtout pas, ça n'arrivera pas demain ni après-demain, c'est dans 5 milliards d'années. Ouais. Donc dans un peu plus de temps que le Soleil a vécu jusqu'à présent. Donc on a de quoi voir.
D'accord, très bien. Alors, on va passer maintenant, toujours dans ce sujet de l'univers, une histoire, un sujet qui passionne beaucoup d'auditeurs, et c'est vrai que parce que j'ai parlé avec des amis pour préparer cette émission, c'est la vie ailleurs. On sait, bon, j'en parlais tout à l'heure, on sait qu'on a sur la planète Terre donc de la vie, on a peut-être, comme vous disiez, peut-être qu'il y aurait pu avoir de la vie sur la planète Mars ou dans notre banlieue, mais plus loin, dans d'autres galaxies, est-ce qu'il y aurait notamment, parce que l'univers est immense, et ça on en a parlé, l'univers est tellement immense il est impossible de se dire qu'on est seul dans l'univers.
Je vais répondre, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient parler. Mais je vais répondre pour vous donner peut-être des bases, disons, d'observation ou expérimentales qui peuvent ramener cette discussion sur des bases un petit peu plus réelles. Premièrement, comme je le disais, pour que la vie existe, il faut un certain nombre de conditions. Alors j'ai dit que sur la Terre, les conditions existaient bien. L'eau est liquide, il y a de l'eau, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, c'est idéal. Mais il y a d'autres conditions qui existent sur Terre et dans notre système solaire. Par exemple, le fait que Jupiter soit sur une orbite circulaire autour du Soleil, c'est très important. Parce que s'il était sur une orbite très excentrique, à forte ellipticité, c'est-à-dire qu'il se rapprocherait très près du Soleil et qu'il s'en éloignerait beaucoup, à ce moment-là, l'orbite de la Terre serait perturbée par ce passage de Jupiter près d'elle. Et donc, elle risquerait soit de se rapprocher trop près du Soleil, la Terre, soit de s'éloigner très fort. Et donc, l'eau qu'elle peut contenir passerait de l'état de vapeur à l'état de glace en l'espace de quelques dizaines d'années, ce qui serait très désagréable. Donc le fait que notre système solaire se soit stabilisé avec des planètes qui ont des orbites bien circulaires, ça fait que nous sommes dans des conditions très agréables sur Terre. Merci à Jupiter, merci à Saturne d'être sur des orbites circulaires. Je parle de ça parce qu'on a découvert des planètes autour d'autres étoiles récemment. On a découvert une dizaine de planètes autour d'autres étoiles. Mais certaines de ces planètes ont des excentricités, comme on dit, elles sont sur des orbites très allongées par rapport à l'étoile, et donc la vie sur ces planètes-là est sans doute assez difficile à faire apparaître. Il y a un autre élément sur Terre qui est intéressant, c'est que nous avons une lune. La lune de la Terre, notre lune, elle a un effet stabilisateur sur la rotation de la Terre. Alors, la Terre tourne sur elle-même, elle fait un tour en 24 heures sur elle-même, et l'axe des pôles est stabilisé par rapport au plan sur lequel la Terre orbite autour du Soleil. Si la Lune n'était pas là, il est vraisemblable que la Terre aurait un mouvement chaotique, la rotation de la Terre serait chaotique, et la vie aurait eu beaucoup plus de mal à se développer. Donc on voit que les conditions pour que la vie telle qu'elle existe sur Terre se développe ailleurs nécessitent quand même plus que le fait qu'il y ait de l'eau, que la planète soit à la bonne distance de l'étoile, etc., etc. Donc nous avons là un petit problème. Néanmoins, moi je dis que la vie dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres endroits de l'univers, elle est plausible parce qu'on trouve de l'eau partout. Et que comme il y a des centaines de millions d'étoiles dans notre galaxie, qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers, je ne vois pas pourquoi nous serions les seuls à bénéficier de ces conditions. Mais c'est vrai que ces conditions sont difficiles à remplir et que donc les populations de l'univers, elles ne sont pas très nombreuses, sans doute, du moins celles qui ressemblent à la nôtre. Maintenant, il se peut qu'il y ait des planètes aussi où les êtres vivants ne sont que des plantes ou ne sont que des microbes. Ceci est à voir dans le futur.
Monsieur Curie.
Oui, je pense que c'est... Je suis assez d'accord. Enfin, je suis évidemment complètement d'accord. Je pense qu'une façon de se rendre compte un petit peu de tout ça, on parle de galaxies, on parle d'étoiles, on parle de planètes, faire un petit peu une différence entre tout ça. Effectivement, toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit sont des soleils. C'est-à-dire qu'on voit à l'œil nu 3000 soleils autour de nous chaque nuit quand il fait bien noir. Notre galaxie, ce que c'est qu'une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, et il y en a 200 milliards. C'est-à-dire que si on imagine que chaque étoile est ramenée à la taille d'un grain de sable, le contenu d'un gigantesque bac à sable réparti entre la Terre et la Lune, grosso modo, c'est à peu près à cette échelle-là la taille que ferait notre galaxie, tout ça, ça fait le nombre de soleils qui existent effectivement, qui sont formés peu ou prou de la même façon que le nôtre, et donc peut-être aussi avec des planètes. Ça, c'est une galaxie. Mais des galaxies comme ça, il y en a des milliards et des milliards et des milliards, il y en a peut-être même une infinité. Donc se dire que dans tout ce vaste univers, il y a un seul de ces grains de sable lumineux, notre Soleil, qui a la chance d'avoir une planète sur laquelle effectivement s'est développée la vie, ça paraît effectivement... Il faudrait à ce moment-là, si on décidait de dire finalement il n'y a que sur Terre qu'il y a de la vie, il faudrait pouvoir expliquer pourquoi nulle part ailleurs il n'y en a pas eu. Et ça apparaît comme quelque chose de techniquement très compliqué à expliquer. Même si effectivement les conditions pour que la vie apparaisse sur Terre, on se rend bien compte, mais peut-être est-ce qu'on regarde un cas particulier, on se rend bien compte qu'elles ont été très délicates à réunir.
Très bien. Monsieur Le Tessier, vous avez peut-être quelque chose à dire sur...
Oui, je voudrais justement, profiter de la présence justement de spécialistes. Et je reviens justement aux questions posées par les élèves dans les nombreuses classes où je vais faire ces petites démonstrations. Souvent, la question de la rotation de la Lune est demandée. Beaucoup d'élèves me demandent souvent, je n'ose pas trop m'approfondir sur les réponses, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais souvent, il y a des questions sur la rotation de la Lune. Est-ce que la Lune tourne sur elle-même, ou est-ce que la Lune est vraiment toujours, comme on le dit, présente toujours la même face sur la Terre? Et ça, c'est une question qui revient souvent, par les élèves.
Bah, effectivement, la Lune et la Terre dansent un espèce de slow langoureux où effectivement la Lune présente à la Terre toujours sa face, sa même face. Et on voit, disons que de la Terre, on voit jamais sa nuque, tout simplement. Mais ça signifie effectivement que la Lune tourne sur elle-même. Si elle tournait autour de la Terre en regardant toujours dans la même direction, mais effectivement, dès qu'elle aurait le dos tourné, on verrait sa nuque. Donc c'est bien qu'effectivement, elle tourne sur elle-même en même temps, exactement de façon synchrone, de façon à nous présenter toujours la même face. Par contre, évidemment, elle n'est pas toujours éclairée dans le même angle par le Soleil. Des fois, elle est éclairée de profil, des fois, elle est éclairée de face, des fois, elle est éclairée de dos. Et donc, il y a des fois où on ne la voit pas quand elle est éclairée de dos, d'autres fois, on la voit sous forme de croissant quand elle est éclairée sur le côté, et on la voit pleine quand elle est éclairée de face. Mais effectivement, la Lune tourne.
On peut se poser la question, pourquoi elle nous présente toujours la même face ou la même derrière, je ne sais pas. Tout est relatif.
Oui, comme ça, vous répondrez exactement aux élèves qui ont posé la question.
Exactement. Bah,
alors, pourquoi
qui nous écoutent.
Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que la Lune, ça nous renseigne sur l'histoire de la Lune. Le fait qu'elle nous montre toujours sa même face ou son même derrière. C'est essentiellement un phénomène gravitationnel, c'est-à-dire l'attraction de la Terre sur la Lune et de la Lune sur la Terre, c'est une force qui attire les deux objets, mais comme ils tournent l'un autour de l'autre, ils restent à peu près à la même distance l'un de l'autre, comme les satellites de télécommunication restent à la même distance toujours de notre planète. Mais, si la Lune était parfaitement homogène, vraisemblablement, elle tournerait sur elle-même un petit peu comme la Terre, comme deux toupies qui tourneraient l'une autour de l'autre. Mais la Lune n'est pas homogène. Et donc, il existe à l'intérieur de la Lune des concentrations de masse qui sont très, très différentes d'un endroit à un autre. Et donc, la Lune est faite de briques et de brocs, en fait. Et le fait qu'elle soit faite de briques et de brocs, eh bien, ça montre que la partie la plus lourde est attirée plus que la partie la moins lourde vers la Terre. Et c'est pour ça que la Lune est couplée, c'est ce qu'on appelle un couplage gravitationnel. Il y a des satellites, d'ailleurs, des satellites artificiels, qui sont toujours en train de, qui nous montrent toujours le même aspect, la même partie de leur structure, parce qu'ils sont couplés gravitationnellement. De cette façon-là. Et c'est donc le fait que la Lune nous montre toujours le même côté montre qu'elle est couplée gravitationnellement, qu'elle n'est pas homogène et qu'elle a donc été formée par plusieurs morceaux ou l'agglomération de plusieurs morceaux. La Lune, c'est un agglomérat. Et voilà déjà donc une observation intéressante que vos élèves peuvent méditer.
Très bien. Monsieur Perrier, vous avez quelque chose ?
Oui, à mon tour de poser une question à Monsieur Bonnet, justement, compte tenu de la structure de la Lune, qui est faite, comme vous le dites, de briques et de brocs, est-ce que ça explique qu'on puisse, par certains moments, je crois que c'est le phénomène des librations, apercevoir un peu plus que les 50% théoriques que l'on pourrait voir de la surface de l'astre ?
La Lune, en fait, est un corps qui a exactement, pratiquement son axe de rotation est pratiquement perpendiculaire au plan de l'écliptique, au plan de son orbite aussi. Donc il y a là un phénomène qui est tout à fait particulier. Il y a une libration en effet, mais je suis pas un spécialiste de cela, donc je suis pas sûr qu'elle puisse expliquer ce que vous dites.
La libration est en fait aussi en partie due, il y a des tas de phénomènes effectivement qui interviennent dans la libration, mais c'est aussi en partie due à l'endroit où vous vous trouvez sur Terre. C'est-à-dire que quand la Lune se lève juste, vous êtes pour ainsi dire un petit peu, et que vous êtes donc elle est à l'horizon très loin, vous êtes pour ainsi dire, alors c'est un petit peu difficile à expliquer sans faire un dessin, mais surtout pour les auditeurs, mais en gros vous êtes pour ainsi dire un petit peu penché sur le côté et vous arrivez à la piéger et aller lui regarder une oreille. Quand elle passe au-dessus de vous, là vous la voyez strictement de face, et quand elle va se coucher de l'autre côté, à ce moment-là vous la piégez et vous arrivez à vous pencher un petit peu sur le côté et voir l'autre oreille. Donc ce petit mouvement, effectivement apparent, qui est un mouvement apparent, qui est en fait lié au déplacement relatif de vous et de la Lune, permet cette libration. Il y a une autre libration, effectivement, qui est due à son axe de rotation très très légèrement incliné, mais qui concerne par contre les pôles de la Lune, qu'on arrive un petit peu à percevoir de temps en temps.
Très bien. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire donc sur la vie ailleurs? Non ? À ce moment-là, je vous propose une...
On pourrait peut-être parler de la façon dont on pourrait la détecter, cette vie ailleurs, parce que quand même, c'est important de savoir la plupart des grands programmes d'astronomie aujourd'hui se proposent comme objectif ultime la découverte de nouvelles planètes et la découverte de planètes de type Terre qui pourraient abriter la vie. Alors, quelle est la meilleure façon de voir si une planète est habitée ? Premièrement, ça serait de pouvoir la photographier et puis de regarder s'il y a des saisons, s'il y a de l'eau, des océans, etc. C'est pas très facile. Donc on est obligé de passer par des observations de type un petit peu indirect. Si on est doté de moyens puissants, on peut peut-être regarder s'il existe de l'eau sous forme liquide par à l'aide de spectres et de moyens spectroscopiques.
Qui nous renseigne sur la qualité de la forme de l'eau. Est-ce que c'est de la glace, de la vapeur ou du liquide? Si on observe de l'oxygène et de l'ozone, alors là on est à peu près sûr que la planète est habitée, en tout cas qu'elle abrite de la vie, car l'oxygène résulte sur notre planète, effectivement, du fait que notre Terre est habitée. Et qu'elle est habitée, que la vie s'y est développée. Donc la recherche des planètes où la vie aurait pu se développer passera par une analyse, disons, moléculaire de ces planètes. Quand elles seront découvertes, on va tout de suite les passer au peigne fin du spectromètre. Et on va regarder, dans l'infrarouge toujours, puisque c'est là qu'on peut observer l'eau et l'oxygène le plus facilement, la signature spectrale caractéristique, ce qu'on appelle les bandes moléculaires de l'eau ou de l'oxygène ou de l'ozone, sont présentes. À ce moment-là, quand on aura détecté l'objet ou les objets rares, il ne nous restera plus qu'à y aller, mais là, c'est une autre affaire.
Très bien. Pas de choses supplémentaires sur la vie ailleurs, non ? À ce moment-là, je vous propose, on va faire une pause, une petite pause musicale. On va se dégourdir un peu les jambes. Surtout, ne zappez pas, hein, puisqu'on est ensemble encore jusqu'à 23h. On va parler tout à l'heure de l'astronomie, à quoi ça sert, qui peut faire de l'astronomie, quels sont les projets futurs, et puis bien sûr vos questions diverses. À tout à l'heure. Jean-Michel Jarre, Oxygène 8, à l'instant sur Radio Droite Cité. C'était précédé de Diana King avec La La Lies. Jean-Michel Jarre, j'aime bien en plus ce titre parce que vous voyez, la pochette, il y a plein d'étoiles dessus. un petit humour comme ça, voilà. On va reprendre donc la deuxième partie de cette émission de Voyage à travers les étoiles avec le deuxième sujet, c'est-à-dire l'astronomie, à quoi ça sert. Donc je vous rappelle qu'on est toujours avec donc Monsieur Roger Maurice Bonnet de l'Agence spatiale européenne, Monsieur Cuirier de l'Association française d'astronomie, Monsieur Serge Letessier, fondateur du Club Copernic, Jean-Pierre Perrier qui est trésorier du Club Copernic, et puis Stéphane Bouteiller qui est membre du club. Alors, pour en revenir donc sur l'astronomie, alors ce que je voudrais savoir, le sujet que je vais vous poser maintenant, c'est pourquoi fait-on de l'astronomie ? Qui répond ? Monsieur Curier.
Une vaste question. Je pense qu'il y a plein de façons de faire de l'astronomie. On aurait pu demander il y a un ou deux siècles, pourquoi est-ce qu'on fait le tour du monde? Et encore aujourd'hui, il y a plein de raisons de faire le tour du monde, pour s'amuser, parce qu'on a envie de voir du paysage, parce qu'on a envie de découvrir de nouvelles contrées. À d'autres époques, ça signifiait d'autres choses. C'était pas tout le monde qui pouvait monter sur un bateau et faire le tour du monde. Je pense que par rapport à l'astronomie, c'est un petit peu la même chose. Il y a l'envie de découvrir, il y a une recherche fondamentale en astrophysique, il y a des questions qui se posent, qui sont parfois très techniques, d'autres qui le sont moins. Il y a des raisons utilitaires. Parce que l'astronomie a servi à une époque à mesurer la taille de la Terre, à mesurer, à créer un étalon de mesure comme le mètre, par exemple, des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, je dirais aussi à quoi ça nous sert, à quoi ça me sert, moi, moi qui habite à Mantes-la-Jolie ou à Paris, ou à quoi ça me sert à moi, un, le fait qu'il y ait des gens qui fassent de l'astronomie, je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, et moi, est-ce que je peux en faire et à quoi ça me sert. Et je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut bien que ça serve à quelque chose, puisque tout le monde en a fait depuis toujours. On sait aujourd'hui que si vous avez la chance d'aller un jour en Angleterre, vous verrez des alignements de pierres à Stonehenge, qui sont un des premiers observatoires astronomiques de l'histoire. Et puis encore aujourd'hui, quand on se retrouve devant un ciel étoilé, on se pose plein de questions, on a envie de voir plein de choses. Je pense que la première chose à quoi ça sert l'astronomie, c'est se repérer. Depuis toujours, ça a servi à ça, se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace. On a parlé tout à l'heure du fait qu'on avait compris qu'on se déplaçait à toute vitesse à travers l'univers. On a compris que les étoiles qu'on voit la nuit sont des soleils. On comprend que ces soleils sont indispensables au fait, doivent exister pour que nous ayons pu exister. On comprend qu'il y a des tas de choses qui ont dû se passer, des explosions d'étoiles, des brassements de matière absolument incroyables pour qu'on puisse naître. Et donc on apprend aussi à se relier à un environnement, même si c'est un environnement un peu lointain, mais qui fait partie de notre environnement. Et c'est une façon de porter un regard sur le monde et un regard sur la science aussi.
Très bien. Donc c'est pour porter donc un regard sur le monde. Et il y a aussi qu'on fait de l'astronomie parce que ça nous apprend justement par rapport aux questions que je posais tout à l'heure, à savoir en fait le devenir de l'univers, le devenir du système solaire, n'est-ce pas, monsieur Bonnet ?
Ben, tout à fait. Je crois que tout le monde fait de l'astronomie rien qu'en regardant le ciel. Donc je crois que c'est une science qui est à la portée de tous les yeux, si je peux dire. Et puis, bon, sur un télescope, c'est à la portée des télescopes. C'est une science d'observation, donc dès que vous observez le ciel, vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi il y a tant d'étoiles? Pourquoi le ciel est noir, là, entre les étoiles? On commence déjà à se poser vraiment des questions sur ce qui nous entoure. Où sont-elles, ces étoiles? Est-ce qu'elles sont à quelques milliers de kilomètres ou est-ce qu'elles sont à des centaines de millions de kilomètres ou est-ce qu'elles sont à des milliards et des milliards de kilomètres? Est-ce qu'elles sont toutes à la même distance ou est-ce que l'univers que l'on voit, c'est un univers en trois dimensions? Est-ce qu'il existe de la vie sur des planètes autour d'autres de ces étoiles? Toutes ces questions que vous avez posées depuis tout à l'heure, je crois que n'importe lequel d'entre nous, qu'il habite effectivement à Mantes-la-Jolie, à Paris ou en Provence ou dans des pays lointains, se pose en regardant le ciel. Et la chose merveilleuse de l'astronomie, c'est que vraiment tout le monde peut en faire et que même avec ses yeux, avec des lunettes, avec des paires de jumelles, regarder la Lune avec une paire de jumelles, c'est fascinant. Même Jupiter avec une paire de jumelles, on commence à y voir des satellites autour, on voit ce que Galilée a vu la première fois, c'est extrêmement facile. Tout de suite, ça vous fait rêver. Vous dites, tiens, voilà, il y a des choses qui tournent autour de ces planètes, c'est extraordinaire.
Surtout quand on vient d'apprendre qu'autour d'un de ces quatre satellites, qu'on voit donc avec une simple paire de jumelles, il y a peut-être de la vie, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure.
La grande question qu'on se pose est donc... Le rôle de faire de l'astronomie, en fait, bon, c'est un rôle de savoir, mais c'est un rôle de vulgarisation aussi. Monsieur, qui répond?
Oui, je pense que la question m'était dérivée, je crois. Oui, effectivement, l'astronomie, comme pour abonder dans le sens de Monsieur Bonnet, c'est vrai que le seul fait déjà de regarder le ciel, on est déjà astronome, je pense. Et pour reprendre aussi ce que disait Monsieur Cunier,
Cuirienne.
Il disait tout à l'heure que l'astronomie existe depuis de longues dates, et c'est vrai, et je suis persuadé que même on pourrait remonter très très loin, c'est peut-être une idée personnelle, mais je pense que ça doit être vrai. Je pense que les anciens, même les hommes des cavernes, devaient commencer déjà à se poser des questions, je crois. Rien que le soir, on les imagine un petit peu le soir, là, au pied du feu, là, à regarder ces petits points brillants dans le ciel, je suis persuadé qu'ils devaient déjà se poser des questions. C'est une pensée que j'ai depuis de nombreuses années. Alors c'est vrai, tout à l'heure l'animateur posait la question de la vulgarisation. C'est vrai que moi j'ai quand même 68 ans et cette passion-là m'a pris à l'âge de 30 ans à peu près. jamais j'aurais pensé pouvoir m'intéresser à l'astronomie. Et j'ai voulu créer un club, et nous avons créé un club, le Club Copernic, qui justement, et le but de ce Club Copernic est de vulgariser l'astronomie, justement. Apparemment, nous réussissons bien. Nous avons fait pas mal de petites portes ouvertes. Nous avons fait un petit observatoire, nous en construisons un autre. Et personnellement, je passe dans les écoles de la région Mantes, de la région parisienne aussi, depuis plusieurs années. Et justement, je reviens justement à la conversation qu'on a eue tout à l'heure à propos des élèves. Je suis toujours étonné des questions des élèves et des réponses aussi quelquefois, parce que maintenant, ils sont très, très au courant de toutes ces choses-là, de l'astronomie. Moi, je trouve ça formidable. Et je vous dis encore une fois, le but de l'astronomie amateur, c'est de vulgariser l'astronomie.